se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir et bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco tous les samedis soirs après l'afterfoot sur RMC. Ce soir, nous allons faire le plein d'espoir parce que mon invité est l'auteur d'un témoignage sur une maladie dont elle est atteinte, mais qui pour autant ne l'a pas découragée. Et c'est pour ça que je reçois avec beaucoup de plaisir Charlotte Sens. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur du livre Le Prix de la Jubilation, qui est paru chez Arteige il y a quelques semaines. Et donc le sous-titre est « Au-delà de la douleur, de la maladie, l'espérance et la joie ». Je précise pour nos auditeurs que vous êtes atteinte d'une maladie auto-immune qui provoque une réaction excessive immunitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est votre quotidien ?
Je me permets une petite correction, c'est une maladie auto-inflammatoire et la nuance est subtile. Les maladies auto-immunes, ça s'attaque à un système immunitaire adaptatif et les maladies auto-inflammatoires au système immunitaire inné. C'est une découverte assez récente qui date de 1999. Donc voilà, c'est une maladie auto-inflammatoire qui, au quotidien, provoque de vives douleurs de type neuropathique, musculaire, articulaire. En résumé, il y a à peu près aucun endroit du corps qui est épargné, ni aucun organe.
Cette sensation qui vous accompagne dans le quotidien, vous la connaissez depuis toujours, depuis un certain âge?
Je suis née avec. Mm-hmm. Et j'ai aucun point de comparaison avec la vie d'une personne en bonne santé. Qui en quelque sorte est aussi bien dans la mesure où j'ai pas de regrets, je me suis construite comme ça, j'ai été éduquée avec cette maladie et ça s'est bien passé, ça continue toujours à bien se passer. Il y a des difficultés, c'est sûr.
Mais... Naturellement. Mais est-ce que vous avez eu des fois la sensation d'avoir peur de la douleur?
Ah oui, la douleur, on peut toujours en avoir peur. Peur parce que elle est plus ou moins bien accompagnée. Peur parce que elle est éprouvante, épuisante, aussi bien physiquement que psychologiquement, spirituellement. Oui, la peur est un sentiment naturel dont on ne doit cependant pas avoir honte. Mais par contre, il ne faut pas la dépasser. Voilà, on peut la dépasser et c'est ce qui permet d'affronter la douleur d'après.
Et justement, dans votre livre, Le Prix de la Jubilation, vous parlez aussi d'une réussite, en fait, parce que vous avez réussi à transformer votre douleur dans une dimension d'espoir. Comment vous avez pu renverser la situation?
Alors, je ne dis pas que j'ai renversé, c'est venu tout naturellement. Déjà, par éducation, j'ai été éduquée dans la foi catholique. Et il n'y a jamais eu la question du « pourquoi notre fille ?» de la part de mes parents. Et chez moi non plus, il y a eu la question « pourquoi moi ?» Il n'y a pas eu on a eu quelque part la grâce d'être épargnée par la question et la révolte. Pourquoi moi? Et la révolte qui va avec. pour nous, la question, c'est pourquoi en deux mots, c'est-à-dire dans quel but, qu'est-ce que je peux en faire, que en soi, la souffrance n'est pas une bonne chose. Mais la façon dont on la vit, ce qu'on peut en faire, y compris avec le regard de la foi, c'est-à-dire en l'unissant à la croix du Christ et en s'accrochant très fortement à la Vierge Marie, eh bien, cette souffrance, on peut réussir à la transcender.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez vague. C'est-à-dire, le Christ, en mourant sur la croix, est mort. C'est l'acte d'amour le plus inouï, le plus grand, qui est assez difficile à imiter. On a l'exemple assez récent d'Arnaud Beltrame qui a donné sa vie.
Qui était un gendarme et qui avait un chemin de foi
extraordinaire, voilà,
assez nourri.
Qui a donné sa vie à la place d'un otage. Et donc voilà, donc en étant donc le Christ est mort sur la croix dans cet acte inouï d'amour et on peut participer à cette offrande du Christ lui-même par l'offrande de nos propres souffrances parce que lui-même désire notre participation. Il désire alors notre participation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ces souffrances. Cette douleur qui est là, qui est quotidienne, que j'ai et que d'autres ont à travers des maladies physiques, psychologiques,
de tout genre,
ou des divorces, ou enfin, voilà, des tout un tas.
Des ruptures de plusieurs types.
Cette souffrance, évidemment, en elle-même, c'est un mal, c'est un scandale. On ne pourra jamais prétendre le contraire, jamais dire le contraire. Par contre, ce qu'on ressent en la vivant, on peut le vivre en l'offrant au Seigneur pour le salut des âmes, pour notre salut et pour aider soi-même. Parce que ça c'est la prière en fait. Seigneur, j'ai cette douleur dans les mains qui me rappelle votre crucifixion. Vous avez offert ça pour nous. Et moi, je vous les offre pour que vous les offriez à votre Père, tous ceux qui ont mal.
J'essaie de le dire autrement, corrigez-moi si je me trompe.
Oui.
En essence, vous dites, moi j'ai une souffrance qui n'est pas du tout bien.
Non, ce sera jamais
bien. On pourrait même vous dire, bah oui, mais finalement tu es contente de souffrir.
Ah non.
Voilà, c'est ça que...
Non, alors attention, on est catholique, on n'est pas maso. Il ne s'agit pas d'aller rechercher la souffrance pour la souffrance.
Ni le martyr,
d'ailleurs. Ou de se réjouir de la souffrance. Surtout pas, mais elle est là.
Ouais.
Donc alors évidemment, je peux me révolter.
Exact.
Mais est-ce que j'irai mieux?
Ouais. Donc vous dites...
Mais c'est un sentiment naturel qui...
Oui, on n'est pas là pour juger ni donner des leçons.
C'est un sentiment naturel qui nous... Enfin,
que nous partageons tous.
Après, il y a deux solutions. Ou on reste dans cette révolte, ou on continue à subir ce qu'on n'a certes pas choisi, ou on essaye de la dépasser.
Donc, en fait, vous dites, bon, je peux choisir entre je me rebelle complètement à cette révolte, ou bien tout en ne la supportant pas, cette douleur, pardon, je l'offre pour le bien de quelqu'un d'autre.
C'est ça.
On peut résumer comme ça. Mais à votre avis, de nos jours, peut-être vous avez eu quelqu'un qui vous a dit « Bah, écoute, moi aussi je souffre beaucoup, moi aussi je souffre terriblement, même pour des raisons, par exemple, comme vous le disiez, des fractures, des ruptures amoureuses, par exemple, sentimentales, et je ne réussis pas à espérer parce que cette douleur est trop forte, etc. » Qu'est-ce que vous leur dites ?
La douleur et la souffrance peut être écrasante. L'accumulation des épreuves est écrasante. Il ne s'agit pas de nier l'écrasement que l'on peut vivre et ressentir. Et dans ce cas-là, cette personne qui n'arrive pas
À espérer.
À espérer. Elle peut peut-être demander de l'aide pour espérer. C'est-à-dire, déjà en exprimant ses difficultés.
À des amis, à des personnes proches.
Exactement, des amis, des personnes proches, un prêtre. Peu importe, en fait. Déjà, l'expression du ras-le-bol, l'expression de la difficulté, c'est un démarrage pour se tourner vers l'espérance. Et ensuite, peut-être faire des petits exercices, comme essayer de voir les petites choses qui parsèment une journée et qui sont heureuses, un verre pris avec un ami, des petites choses aussi simples en fait, du quotidien. Et puis toujours le demander dans... Pour ceux qui ont la foi, le demander dans la prière, et même sans la foi, en fait, on peut le demander. Ce n'est absolument pas interdit. Et c'est même encouragé.
Ça ne fait pas de mal. je me demandais, les médecins que vous côtoyez, j'imagine, que vous disent de votre attitude ? Que vous disent les médecins que vous rencontrez de votre attitude, de votre...
Pas grand chose. Les gens parlent, c'est pas un sujet qui est abordé. Le médecin aujourd'hui, souvent, en tout cas parmi ceux qui me soignent, sont souvent des grands techniciens. On est là, hein, si vous voulez, c'est un peu comme le moteur de la voiture. Il y a un mécanicien qui va aller resserrer un écrou, un autre qui va aller faire la vidange. Et le médecin, c'est ça. Il y a un problème au rein, il va essayer de faire son petit bricolage et faire ce qu'il faut. Je dis pas ça de façon à mépriser les médecins.
Ils font
un travail absolument extraordinaire.
Absolument pas là.
Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à eux. Hein. Ouais. Ça, je leur en suis infiniment reconnaissante. Mais quant à la façon de vivre la maladie, et d'ailleurs, je pense. L'attitude des médecins, des palliativistes, de ceux qui sont médecins en soins palliatifs, ils ont une façon d'appréhender le patient qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus respectueuse de ce qu'on peut vivre, qui intègre la famille, qui tient compte du milieu socio-culturel, qui tient compte des difficultés spirituelles. Ça peut paraître étonnant, mais c'est pas parce que la médecine est laïque et que, elle a face à elle. Une personne qui est là avec son âme, son intelligence, sa volonté, c'est pas seulement un corps. Et je pense que ça, la médecine palliative a une approche absolument merveilleuse du patient. Et mon espoir, mon espérance, c'est que justement, on s'en inspire de plus en plus pour redonner aux patients, aux malades qui ont du mal à vivre avec des quotidiens douloureux et compliqués, justement pouvoir redonner cette petite lueur, cette petite joie qui va permettre d'espérer, d'espérer au sens...
intense.
D'espérer déjà tout simplement au sens... premier du terme, et ensuite d'espérer au sens spirituel, d'espérance.
Quelque chose d'encore plus élevé. Je reviens à votre livre, Le prix de la jubilation. Est-ce qu'il y a des figures, des saints qui vous inspirent, qui vous accompagnent peut-être aussi d'un beau...
Beaucoup.
Par exemple
L'Église en est riche. Sainte Catherine de Sienne. Ces dialogues et ces oraisons sont des dialogues sur la souffrance en fait, et elle explique, en la lisant on comprend très bien justement cette façon, c'est ce que propose l'Église, c'est-à-dire de nous unir à la croix du Christ, et elle nous invite à un combat spirituel, parce qu'on parle de la maladie, mais le mal c'est aussi nos propres turpitudes, notre péché. Et donc justement là aussi elle nous invite à ne pas désespérer, et elle montre un peu le cheminement qu'on peut avoir pour aller vers Dieu.
D'ailleurs, Sainte Catherine de Sienne était aussi, on peut dire, une fine diplomate, parce qu'à son époque,
elle
était une femme qui n'avait peur de rien, en fait, parce qu'elle a écrit aussi au pape qui était venu à Avignon en le priant de revenir à Rome.
Dans tous les pays, elle n'hésitait pas à dire au roi des différents pays d'Europe.
Elle n'y allait pas par les quatre chemins.
Bonne ou pas, en fait.
Oui, voilà.
Donc, elle tapait souvent du poing sur la table.
Et c'était inusuel pour une femme à l'époque. On parle de 1300, grosso modo, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une figure. Et en plus que Sainte-Catherine de Sienne, une autre saint ou sainte, un autre saint ou sainte.
Une autre, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, beaucoup plus proche que nous, 19e siècle, cette petite carmélite, cette petite jeune fille qui est entrée au Carmel à l'âge de 15 ans. Quand on voit des adolescentes aujourd'hui de 15 ans, c'est quand même très très jeune. Et elle avait une fois, déjà, elle a une fois déplacé les montagnes, puis il a fallu obtenir l'autorisation d'entrer au Carmel.
Elle est allée voir le pape, elle aussi.
Elle a été voir le pape, ouais. Elle n'a pas obtenu la réponse qu'elle voulait.
Mais elle ne s'est pas démontée.
Bah justement, Saint-Jean l'Enfant Jésus, avec l'instant présent, c'est bien une sainte pour notre temps. Au-delà du côté qu'elle peut avoir l'air très fleur bleue, un petit peu cucul après, mais pas du tout. C'est, Yves de Saint-Chéron a écrit un livre absolument magnifique.
Qu'on a reçu ici.
Absolument magnifique.
Éloge d'une guerrière.
Voilà, et il montre bien ce qu'est le combat spirituel, et, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, que c'est quelque chose d'assez viril qui nous engage de tout notre être. Et qui demande beaucoup d'efforts et une sacrée dose d'espérance aussi.
Et donc, une dernière question. Je reviens au sujet de l'espoir. Que direz-vous à quelqu'un qui n'ose pas espérer ?
Qui n'ose pas ?
C'est une question compliquée et simple à la fois.
Il faut faire confiance. Que pour espérer, il faut faire confiance. Faire confiance à tous ceux qui sont passés sur notre chemin pour nous accompagner. On peut avoir l'impression qu'on est très seul. On est souvent très seul, mais il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup de rencontres. Et puis la prière. La prière. Ne jamais désespérer d'une demande qui nous semble ne pas être...
Accueillir.
Ne pas trouver sa réponse aujourd'hui, mais harceler le ciel, vous verrez. Et un moment, à force de lui casser les oreilles.
J'aime bien cette expression, harceler le ciel. Je vous remercie, Charlotte Sens. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Le Prix de la Jubilation, qui est paru chez Artege il y a quelques semaines. Je donne un rendez-vous à nos auditeurs qui nous ont suivis aussi ce soir à samedi prochain, toujours après minuit, après l'After Foot, ici sur RMC, à l'émission L'Église d'aujourd'hui, qui est proposée par le diocèse de Monaco. Bonne nuit.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.